Depuis Genève, lors du Conseil des droits de l'homme, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dénoncé l'inaction de l'organe suprême des Nations Unies, censé garantir la paix mondiale, mais incapable, dans les faits, de s'accorder sur un cessez-le-feu à Gaza. De quoi poser la question de son avenir ? On en parle avec Alberto Toscano, journaliste et politologue.
Alberto Toscano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et politologue. Alors, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a prévenu aujourd'hui que l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les conflits en Ukraine et à Gaza pourrait, je cite, « porter un coup fatal à son autorité ». Alors, pour commencer, Alberto Toscano, une fois de plus, Antonio Guterres fait parler de lui. Selon vous, il faudrait une réforme de l'ONU aujourd'hui ?
Bien sûr qu'il faudrait une réforme de l'ONU, mais ce n'est pas Antonio Guterres qui a perdu beaucoup de sa crédibilité, qui n'était déjà pas énorme, qui peut lancer cette réforme de l'ONU. Et ce qu'il vient de dire n'est que le témoignage de ses contradictions et de son impuissance. Et la guerre d'Ukraine, bien sûr, existe et fait des ravages depuis 2 ans, mais l'ONU a été impuissant et Antonio Guterres avec l'ONU. La situation à Gaza est bien sûr dramatique, mais Antonio Guterres a des responsabilités précises dans la façon où l'ONU a géré cette situation. Tout d'abord, la condamnation, quelque part timide, de la tragédie absolue provoquée par le terrorisme le 7 octobre en Israël. Ensuite, le fait que des agences de l'ONU ont été impliqués dans des situations, le moins qu'on puisse dire, est opaque. Parfois, il y a même, selon la dénonciation d'Israël, des engagements personnels de personnes qui étaient salariées par l'ONU et ses agences locales dans des situations de violence et en relation avec Hamas. Enfin, bien sûr, et je continue sur ce sujet, il est évident qu'il faut réformer l'ONU. Mais l'ONU doit ouvrir les yeux aussi sur d'autres situations autant tragiques. Je parle du Soudan, je parle d'autres massacres quotidiens dans le monde entier sur lesquels, pour des raisons des politiques politiciennes, pour des raisons d'intérêt partisan, l'ONU a un silence coupable. On parle de nationalité, des droits des peuples à avoir un État. On parle de ça à propos du peuple palestinien, dans la logique qui est une logique qui se tient de deux États qui peuvent avoir se réaliser quand il y aura une vraie paix, une vraie garantie à Israël pour sa sécurité. Mais on ne parle pas du droit des Kurdes, du peuple kurde, à avoir son État. Pourquoi les Kurdes ne doivent pas avoir leur État et c'est pour faire un cadeau, évidemment, à la Turquie en premier lieu.
Et donc Alberto Toscano, vous évoquez le fait que l'ONU ne se porte pas bien, vous avez aussi parlé de l'UNRWA évidemment, c'est une très mauvaise image que dégage l'ONU et ses organisations depuis le 7 octobre.
Ah, sans aucun doute. Et ça souligne l'importance réelle qu'on prend en compte le problème de la réforme de l'ONU. Mais encore faut-il décider le problème clé qui est celui du Conseil de sécurité. Parce que le Conseil de sécurité ayant le vrai pouvoir au sein de la structure des Nations Unies, il y a un archaïsme. L'archaïsme est que 5 pays qui sont considérés les pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais on pourrait discuter sur le rôle de la France, mais glissons sur ce sujet. Et il y a le fait que 5 pays, considérés, je le répète, gagnants de la Seconde Guerre mondiale, disposent du droit de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Cet élément du droit de veto a une importance capitale et on le voit aujourd'hui dans le cas, par exemple, de la Russie, qui a hérité du droit de veto de l'Union soviétique et qui l'utilise pour empêcher toute, entre guillemets, intromission, selon le langage de Poutine, de l'ONU dans la question de la guerre en Ukraine, qui a été la conséquence d'une invasion de l'Ukraine décidée par la Russie elle-même. Donc, la question du droit de veto est une question fondamentale. De l'autre côté, comment est-ce qu'on peut concevoir des équilibres qui ne prévoient pas les droits de veto? Et on risquerait d'entrer dans une logique où des majorités provoquées par un ensemble, l'agglomération de pays, parfois de petits pays, fasse jouer le nombre pour prendre, pour engager l'ONU dans des décisions qui seraient parfois très discutables. Le mécanisme du droit de veto pour 5 pays a des défauts, mais en même temps, depuis longtemps, depuis la naissance des Nations Unies, a garanti quelque part un équilibre. Aujourd'hui, il y a une ONU qui est sortie de l'équilibre de la guerre froide pour entrer dans une phase où les pays disposant d'un droit de veto ne sont pas capables, politiquement, dans la stratégie internationale, de garantir quelque part une forme d'équilibre. Jamais le contexte actuel en Ukraine aurait pu exister à l'époque du vieil équilibre entre États-Unis et Union soviétique. Alors aujourd'hui, il ne faut pas avoir la nostalgie du passé, mais on peut constater qu'on a du mal à imaginer l'avenir. On a du mal à imaginer une structure multinationale qui puisse garantir quand même le dialogue. Et aujourd'hui, on voit que même le dialogue est extrêmement difficile.
Vous pensez
et on le voit tous les jours. Et on le voit tous les jours.
Vous pensez que l'ONU, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle peut être amenée à disparaître s'il n'y a pas de réforme?
C'est une hypothèse plausible. Heureusement, pas probable, mais plausible. Par exemple, on peut se poser le problème de certains pays qui ont un poids important dans la politique internationale d'aujourd'hui. Je parle du Brésil. Le Brésil n'est pas membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je parle de l'Inde, qui est devenu le pays le plus peuplé du monde et qui ne dispose pas d'un siège permanent au Conseil de sécurité. Et on pourrait continuer comme ça. L'Allemagne, l'Italie, le Japon n'ont pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Alors, on peut élargir le nombre de membres du Conseil de sécurité, mais on devrait aussi se poser le problème d'élargir le nombre de membres permanents. Mais, question, dans ce cas, on pourrait ou on ne pourrait pas continuer à donner le droit de veto à tous les membres permanents qui pourraient devenir des 5, 10 ou plus? C'est un problème. Donc, il y a d'un côté le besoin d'élargir le nombre des membres permanents, ce qui serait parfaitement logique, et je répète l'exemple du Brésil, de l'Inde et du Japon et de l'Allemagne. Mais il y a aussi les droits et les avantages liés au statut de membre permanent. C'est un débat extrêmement complexe qui difficilement peut avoir lieu et difficilement peut trouver une solution au moment où deux guerres terribles sont en cours, une en Ukraine et l'autre, malheureusement, à Gaza, suite aux attentats terroristes perpétrés par Hamas le 7 octobre.
Alberto Toscano, je rappelle que vous êtes journaliste et politologue. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Je vous en prie.